Vous écoutez Fréquence 6. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale sur la guerre en Ukraine. Pour cela, nous accueillons en studio Marina et Justine, deux élèves de première, et Aurélien Guillet, un professeur de CM2. Nous avons aussi recueilli les propos d'Annick Goulet, l'ambassadrice du Canada en Moldavie, et du président du Congrès ukrainien, Boris Kengalo, au sujet des réfugiés. Je passe tout de suite la parole à notre journaliste du jour, Laura.
Merci beaucoup, Sybille, et bonjour, chers auditeurs. Savez-vous que le Canada accueille la troisième plus grande communauté ukrainienne? Le Canada ouvre ses portes à de nombreux réfugiés, certains à cause de guerre, comme les Afghans, d'autres suite à des catastrophes naturelles, comme les Haïtiens. Et avec la crise humanitaire en Ukraine, nous en accueillerons sans doute encore plus. Mais nous ne sommes pas les seuls. Aujourd'hui, je vais vous parler tout particulièrement des mesures qui ont été prises pour accueillir les réfugiés ukrainiens, au Canada et dans d'autres pays frontaliers avec l'Ukraine.
Pour développer ce sujet, je donne tout de suite la parole à l'ambassadrice du Canada en République moldave, qui fait un point très précis sur la situation.
Tous les pays sont très affectés par les flux migratoires dans la région. Il y a actuellement, selon l'Organisation mondiale des migrations ou internationale des migrations, il y a à peu près 7 millions d'Ukrainiens qui sont déplacés à l'interne, donc à l'intérieur de l'Ukraine, donc qui vont dans d'autres régions qu'ils considèrent plus sécuritaires. Mais il y en a quand même à peu près 4,5 millions qui ont fui à l'étranger, une grande partie en Pologne, mais aussi beaucoup en Roumanie, en Moldavie, en Slovaquie, en Hongrie et en Bulgarie. Et la Moldavie, qui est le pays vraiment qui est un des plus près, en a accueilli, par exemple, à ce jour, on dirait à peu près 415 000. 415 000 pour une petite population comme la Moldavie, qui a 2,5 millions de personnes à peu près, c'est 16% de la population. C'est énorme. C'est une grande, grande, grande pression sur ce petit pays-là, qui est aussi le plus pauvre de toute l'Europe. Au Québec, ça voudrait dire qu'on accueillerait 1,3 million de personnes en l'espace de 6 semaines.
On voit que la Moldavie se mobilise pour venir en aide aux Ukrainiens. De son côté, le Canada a annoncé le 25 février qu'il donnerait 10 millions de dollars pour la crise humanitaire en Ukraine. Et environ 10 jours plus tard, ce montant est passé à 30 millions. Cet argent a été partagé en différentes organisations, comme par exemple Fonds humanitaire pour l'Ukraine, SOS Village d'Enfants Canada et le Programme alimentaire mondial. Cela a permis d'offrir des abris, de la nourriture et une protection sociale aux réfugiés. Le Canada a aussi mis en place plusieurs nouvelles mesures migratoires. Par exemple, les Ukrainiens ont droit à un traitement accéléré pour obtenir les visas.
Justement, Madame Goulet a évoqué ce sujet lors de notre interview. Elle revient sur les mesures prises au Canada, mais aussi sur la gestion des demandes de réfugiés en République moldave. Écoutons-la.
La demande, elle est énorme. Le Canada a mis en place une mesure qui s'appelle l'autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine. Et c'est un programme qui a été mis en place il y a peut-être 3 semaines maintenant. Essentiellement, ce programme-là promet d'accueillir un nombre illimité de réfugiés ukrainiens qui leur donne la permission essentiellement de résider au Canada, d'y étudier et d'y travailler pour à peu près 3 ans. Ça permet aussi à ceux qui seraient déjà, par exemple, au Canada, de bénéficier de ce programme-là, donc pour 3 ans supplémentaires. Pour nous, donc, on prend toutes les demandes de réfugiés ukrainiens ou d'Ukrainiens qui voudraient aller au Canada. On les prend à mon ambassade. L'ambassade fonctionne généralement, même en dehors de cette crise-là. On travaille avec 2 centres qu'on appelle des centres de demande de visa. Donc, on en a un à Chișinău, qui est la capitale de la République moldave. On en a un aussi à Bucarest. Actuellement, ce qu'on fait de plus, c'est que l'ambassade devient un troisième centre, finalement, de demande de visa pour pouvoir gérer ces demandes qui viennent des réfugiés ukrainiens. Actuellement, on a à peu près 80 demandes de visa qui viennent de réfugiés ukrainiens en République moldave par jour. et plus que 250 par jour également qui sont prises ici en Roumanie, que ce soit par le centre de demande de visa ou que ce soit par l'ambassade.
Nous avons donc compris que les ambassades facilitent l'arrivée des membres de la famille immédiate de citoyens canadiens ou de résidents permanents. Mais si ces mesures peuvent aider de nombreux Ukrainiens, elles soulèvent cependant des inquiétudes quant à l'impact sur d'autres réfugiés en attente de réinstallation au Canada, en particulier les réfugiés afghans.
Voyons comment cela se passe à Bucarest.
De mon point de vue, à Bucarest, on a seulement, en fait, actuellement, des réfugiés ukrainiens. On a certaines autres demandes d'immigration qu'on traite comme on le ferait normalement. Et on a eu avant, pendant l'été, beaucoup de demandes d'Afghans qui transitaient notamment en Europe de l'Est, en Bulgarie ou ailleurs. Donc, nos opérations continuent comme on l'a fait dans le passé, selon l'urgence, selon les demandes qui arrivent. Et pour nous, actuellement, ce sont des demandes de réfugiés ukrainiens.
Mais Mme Goulet rappelle également l'impact que tout cela a sur les autres réfugiés.
Ce sont les Ukrainiens qui sont touchés en premier, mais vous l'avez dit, les Russes, mais aussi d'autres populations de pays tiers. Donc, au début, on a vu beaucoup d'étudiants étrangers, des étrangers indiens, azéris, de beaucoup d'autres nationalités qui se trouvaient sur le territoire ukrainien et qui ont des besoins en transit avant de pouvoir retourner dans leur pays respectif.
Les conséquences de cette guerre sont donc multiples. Laura, que peut-on faire à notre échelle d'après toi?
Peut-être donner des couvertures ou faire du temps matériel?
Je ne suis pas certaine de cela, Laura. Madame l'ambassadrice nous donne justement son avis sur la question. Elle nous propose des pistes d'action.
Je pense que l'idéal, c'est quand même de donner de l'argent, donc des contributions financières. Les dons matériels sont pas idéaux parce que, bon, par exemple, si je prends des dons, que ce soit des vêtements, que ce soit des tentes, de la nourriture, il y a plein de complications et de délais à ce à toutes les questions d'importation, exportation. Donc, les dons en espèces, en argent, demeurent, je crois, la meilleure façon d'acheminer l'aide et de la cibler vraiment vers les besoins. Ça permet, par exemple, d'acheter des fournitures en fonction des besoins qui sont très ponctuels des réfugiés. Ça permet aussi de soutenir l'économie locale. Donc, je vous parlais de la pression des réfugiés sur la Moldavie, qui est un pays très pauvre. Il y a une grande, grande partie du budget moldave actuellement qui est utilisée pour aider les entreprises, aider les familles qui recueillent les réfugiés. Il y a des organismes canadiens qui sont très impliqués. J'ai rencontré le week-end dernier le président de la Croix-Rouge canadienne qui était sur le terrain. C'est un des organismes avec lesquels tout le monde coopère. Et on peut, par exemple, je ne sais pas, au lycée Claudel, organiser des activités de collecte de fonds avec l'argent qu'on recueille. On peut donner aux organismes internationaux, aux organismes canadiens qui peuvent s'assurer que ça se rend là où ça répond aux besoins très, très, très concrets des Ukrainiens.
Eh bien, justement, les élèves de CM2 ont mis en place une initiative pour aider les réfugiés ukrainiens.
Aurélien, vous êtes avec nous en studio pour en parler. Nous allons écouter vos élèves dans quelques instants. Mais avant, que pensez-vous des conseils donnés par Madame l'ambassadrice? Est-ce que vous vous retrouvez dans cette initiative?
Bonjour à tous. Donc oui, effectivement, je me retrouve complètement dans cette initiative puisque tous les CM2 du lycée Claudel ont participé à une action caritative qui était donc d'effectuer une levée de fonds pour les réfugiés ukrainiens, notamment les plus vulnérables, qu'on a appelé le marché de la paix et qui consistait à vendre des bracelets, des colliers ou des marque-pages à des petits prix, ce qui était pour nous le moyen le plus sûr pour aider, soutenir rapidement les Ukrainiens et en suivant les instructions que l'on pouvait entendre à la radio, à savoir apporter d'abord des fonds, des dons financiers.
Je vous propose maintenant d'écouter vos élèves et vous nous expliquerez ensuite comment vous avez orchestré tout cela en tant qu'enseignant.
Nous voici avec organisateur Noah et Violette. Pouvez-vous peut-être nous parler de votre collecte? Que vendez-vous ou pourquoi faites-vous cela?
Donc c'est une levée de fonds qui aura pour but d'aider les réfugiés ukrainiens.
Nous vendons des bracelets en élastique mais aussi en fil. Nous vendons des bagues et des colliers et des marque-pages plastifiés.
Et ce sera dans la cour de récréation du primaire, devant les structures de jeu.
Où va l'argent que vous gagnez à une association spécifique?
Donc l'argent ira à la Croix-Rouge pour les réfugiés ukrainiens.
Merci beaucoup de votre temps.
Merci à vous.
Merci.
Alors Aurélien, combien d'argent avez-vous récolté au final?
Alors nous avons récolté environ, si j'arrondis, 2500 dollars. Donc les élèves, tous les CM2 et puis tous ceux qui ont participé, hein, j'entends aussi tous les élèves du lycée qui ont participé, les parents, je peux dire qu'il y a une très grande fierté par rapport à ce don. Merci d'ailleurs, je remercie d'ailleurs à tout le monde d'y avoir participé.
Quelles compétences cela a-t-il développé chez vos élèves?
Alors, l'objectif, évidemment, ça tournait autour de l'engagement citoyen. Et qui dit engagement citoyen dit altruisme. Altruisme, coopération, on retrouve souvent ce terme de coopération dans les programmes. Plus concrètement, mon objectif à moi, c'était de leur prouver, c'était de les accompagner, puisque c'est leur projet, c'est eux qui l'ont amené. Mon objectif, c'était de leur prouver qu'ils ont ensemble, par la coopération, une force de changement et qu'ils ne sont pas trop jeunes pour y croire et aller au bout de ce projet, avec une très belle surprise à la fin, puisque personne ne s'attendait évidemment à ce montant.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ?
Alors oui, évidemment, on a rencontré des difficultés. Déjà, au niveau de la création de ce projet, je rappelle que c'est deux élèves dans ma classe, Noan et puis Violette, qui ont proposé au conseil de coopération, parce qu'on a un temps de coopération par semaine, à peu près d'une demi-heure, qui a pour but de féliciter, d'encourager, de régler des problèmes et de faire des propositions. Et puis Violette et Noan ont demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire. Petit à petit, les problèmes se sont posés pendant ce conseil de coopération. Ça a pris beaucoup de temps en fait, hein. La première chose, c'est on ressent de l'empathie, donc on est connecté à ce qui se passe, mais comment on fait pour répondre? Donc quelle forme ça va prendre? Et donc petit à petit, on a dû ensemble creuser. J'étais là pour les accompagner à savoir comment on peut répondre à cette situation, quoi vendre, comment on va l'appeler. Donc on a décidé le marché de la paix, etc. Puis le deuxième problème, bah, c'est qu'ils sont quand même pas loin de 90 élèves à vouloir participer à ce projet. Et que pour évidemment nous, les CM2 bleus et puis les professeurs, ça demande énormément d'organisation. Donc le principal problème, c'est que tout le monde évidemment avait très envie de participer dans les CM2. Et donc il fallait trouver un rôle à chacun. Donc ensemble, avec les CM2, on a essayé de voir. Et on a créé plusieurs rôles. Donc on a créé les rôles des coordonnateurs qui allaient gérer, qui allaient communiquer l'information. Il y aura des sous-coordonnateurs. Il y a eu les artisans de la paix qui avaient pour but de tisser, de faire les bracelets pendant la vente. Il y avait évidemment le rôle des vendeurs. Voilà, essayer de trouver un rôle à chacun et que chacun puisse se sente investi et puisse participer sans discrimination à ce projet. Et puis le dernier problème, eh bien, c'était la canalisation, puisque ce projet a apporté beaucoup d'émulation. Il y a eu beaucoup d'enfants qui voulaient aussi acheter des bracelets, on a eu des très longues lignes, donc il fallait canaliser ce projet et l'organiser de mieux en mieux, de semaine en semaine, pour répondre aux différentes problématiques.
Merci Aurélien d'avoir répondu à nos questions, et merci Laura pour cet éclairage très spécifique sur la guerre en Ukraine. Nous accueillons maintenant Marina et Justine, deux élèves de première bleue et première verte, qui ont eu l'occasion avec leur professeur, M. Gallo, de travailler sur le thème des frontières, et elles ont choisi précisément celle de l'Ukraine. Pouvez-vous nous expliquer le projet que vous avez réalisé en classe? Quel en était le but?
Bien sûr! Alors, tout d'abord, c'était pour notre spécialité, qui est AGGSP, et c'était un projet sur les frontières. Le but était de réaliser notre propre carte sur une problématique que nous allons conceptualiser sur une frontière du monde qui a un enjeu aujourd'hui dans le monde. Alors nous avons choisi nous-mêmes, je pense qu'on a commencé le projet en février ou peut-être fin janvier, quand la crise ou bien quand le conflit a vraiment recommencé depuis 2014. C'est pour ça qu'on a choisi en fait le conflit de l'Ukraine et ses frontières.
Qu'avez-vous retiré de cette activité? Qu'en avez-vous retenu?
Le but en fait c'était vraiment d'apprendre. Pourquoi est-ce que la Russie fait ça? Et on voulait vraiment comprendre. Alors, on a étudié, on a cherché à comprendre l'histoire, la relation entre l'Ukraine et la Russie, qui est assez... Il y a eu des difficultés. C'est complexe. On a procédé en un peu triant ce qu'on a appris pour créer une méthodologie séparée en trois mouvements de quelles sont les tensions en ce moment.
On a créé une légende divisée en trois parties. D'abord, l'Ukraine soumise à des divisions internes, donc le fait que l'Ukraine de l'Ouest soit très pro-occidentale et que l'Ukraine de l'Est soit pro-russe. Ensuite, en deuxième partie, plutôt les conflits en jeu des frontières externes, donc tous les pays de l'Ouest qui font partie de l'OTAN et de l'Union européenne, et aussi l'hypothèse envisageable que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, ainsi que les pays de l'Est aussi qui font partie de la CEI, qui sont plutôt pro-russes.
Qui vont mettre leur pression, c'est ça, ouais. sur le pays.
Et la Crimée, finalement, qui est au cœur des tensions, avec le fait qu'elle soit annexée par la Russie en 2014, qu'elle est cible d'enjeux, parce que son port, Sébastopol, est très important.
Car il c'est la mer Noire.
Voilà. Et finalement, en troisième partie, les territoires ambigus. Donc déjà, le cœur de l'Ukraine, qui est la zone la plus peuplée et active, ainsi que la Moldavie, qui est craintive face aux pressions russes, et finalement la Serbie, qui ne fait ni partie de l'OTAN, ni partie de l'Union européenne.
Où est-ce qu'on peut consulter cette carte si on veut en savoir plus?
Alors, je pense qu'il va y avoir une exposition. Alors, évidemment, on n'est pas le seul groupe à avoir réalisé une carte. Il y en a sur d'autres conflits. Je ne sais pas exactement où est-ce qu'elle va avoir lieu, mais je sais qu'il va en avoir une.
Merci beaucoup, Marina et Justine.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et pour finir, une interview exclusive du président du Congrès ukrainien, Boris Kengalo, qui va nous parler des mesures prises pour les réfugiés ukrainiens à Ottawa.
What is your responsibility right now at the Congress?
There are a lot of issues involving the refugees. What we are doing is a series of acts. In general terms, for Ukrainian refugees, we are raising funds. Overall, our fundraising is done through the Canada-Ukraine Foundation. Now, next element is helping the refugees when they get here. We have a small group of volunteer psychologists. We help the refugees plug in to the Canadian system. We're also helping people connect with schools, helping them deal with the refugee paperwork, Medicare card. Next element that is causing us a real problem is the question of housing. Most of the refugees coming to Canada are from three vulnerable groups: single women, women with children, and seniors. Most displaced people will be going home. And this is what happened with the Bosnian refugees in the 1990s.
Thank you much for your time. And we're actually really thankful for everything you're doing. We think it's very important in our community.
Thank you.
Merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale dans les studios de la web radio du lycée.